Très bien, mais pendant que vous finissez de vous réinstaller, donc je vais dire commencer à dire quelques mots et de remerciements d'abord et puis d'introduction à cette première session intitulée Quel patrimoine dans le PLU? Alors quelques mots aussi à mon tour de remerciements d'abord parce que l'occasion m'est donnée de remercier Arnaud de la Jartre. Hein. Vous aurez compris que c'est lui qui a dû monter en première ligne en 2015 lorsque le programme a démarré, étant donné que j'étais au même moment recruté comme directeur d'un équipement culturel. Donc je dirai quelques mots, je m'en saisirai pour présenter aussi un petit peu la thématique des patrimoines ici dans les PLU. Voilà. Également, j'en profite pour remercier Cécile Regnault, ma collègue de l'école d'archi de Lyon, de l'ENSAL, qui est venue renforcer l'équipe et justement un petit compenser en quelque sorte hein, aussi mon retrait relatif hein, de ce travail collectif. J'en profite également pour saluer Luc Bousquet, le directeur de la recherche de l'ENSAL, qui est présent là-bas et qui est en train de s'asseoir. Voilà, donc c'était un moyen aussi de bien maintenir ce partenaire architecture, ce partenaire école d'architecture dans le dispositif. Et je signale aussi que dans cette composante archi du programme, il y a également Bastien Couturier, qui a des problèmes de santé assez sérieux qui l'empêchent d'être parmi nous, mais on pense bien à lui et il a contribué évidemment à ce travail collectif. Après sa thèse d'ailleurs consacrée à la radiation des monuments historiques. J'ai croisé tout à l'heure Alain Marénos qui était d'ailleurs dans le jury de cette thèse assez tout à fait instructive sur la question plus spécifique des monuments historiques et de leur radiation. Voilà quelques mots que je tenais à dire. Et puis donc pour introduire cette thématique des patrimoines dans les PLU, donc nous allons réouvrir le premier tiroir de la boîte noire. On va fouiller un petit peu, même si beaucoup de choses ont déjà été dites, et de manière très efficace dans le cadre du film, comme vous avez pu le voir. Alors tout d'abord, et c'est bien ça qui justifie, quoi qu'il arrive finalement, et quoi que l'on identifie dans cette recherche, le fait de l'avoir mené, c'est que, quoi qu'il arrive, les documents d'urbanisme doivent intégrer, par principe, des patrimoines culturels, des patrimoines naturels ou paysagers. Donc il y a du patrimoine dans les PLU, ou plutôt il y a des patrimoines dans les PLU, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est amené plutôt à faire une photo de classe qu'un portrait robot. Donc ça c'est un premier point de départ qu'on peut tout simplement rappeler. Alors ensuite, ces PLU sont des formes de miroirs, en quelque sorte, des conceptions du patrimoine ou des patrimoines qui sont en vigueur aujourd'hui en France, au début du XXIe siècle. Et de ce point de vue-là, ce corpus que nous avons saisi est sans doute un des plus pertinents, peut-être pour faire le point sur qu'est-ce qui fait patrimoine à l'heure actuelle et comment cette notion a-t-elle finalement évolué. Mais ce n'était pas tant notre objet que finalement de voir de quelle manière ces documents d'urbanisme traitaient la question, s'emparaient de la question patrimoniale. Mais de ce point de vue-là, ne perdons pas de vue qu'ils sont le reflet, effectivement, des conceptions en vigueur et que ces conceptions bougent, évoluent en permanence. Alors des miroirs, je le disais, des conceptions patrimoniales en vigueur, mais des miroirs déformants. Alors déformants parce que ça a été déjà dit, et beaucoup de choses ont déjà été dites dans ce film, qu'on sera amené à rappeler et à illustrer et à fouiller, à savoir que ça dépend du degré de connaissance que l'on a de ces territoires et de ce qui peut faire patrimoine sur ces territoires. De ce point de vue-là, les collectivités sont très inégales, ça a été déjà rappelé. Et par ailleurs, l'autre déformation que l'on observe, c'est que cela dépend évidemment de qui va produire cette connaissance et pour qui passe commande de cette connaissance. Donc les acteurs qui sont à la manœuvre, en quelque sorte, pour élaborer, identifier et ensuite effectivement sélectionner ce qui va faire patrimoine dans les documents d'urbanisme. Alors par rapport à la phase identification qui va être développée par mes collègues tout de suite après, donc il y a un outil qui a déjà été mentionné, qui est l'outil central, l'outil référence en quelque sorte, qui est celui de l'inventaire. Quand on dit inventaire, on se réfère effectivement à une méthode hein, qui est en tout cas portée par les services de l'inventaire, mais cette méthode-là est ensuite adaptée, déclinée et est extrêmement variée d'un territoire à l'autre. Hein. Ce sera l'occasion aussi de l'illustrer très bien ici. Et d'autres acteurs que les services régionaux de l'inventaire sont à la manœuvre, sont mobilisés, sollicités pour ce faire. Et on aura aussi l'occasion de montrer cette diversité des manières de faire inventaire qui, effectivement, ne relèvent pas que des services de l'inventaire qui ont été déconcentrés, plus exactement décentralisés, pardon, en 2004. Alors, de ce point de vue-là, dans notre corpus, les 20 plus grandes communes, les 20 communes les plus peuplées de France, elles se sont dotées quasi à l'unanimité d'outils de ce type-là, compte tenu de leurs moyens, de leur ingénierie. Il y a deux exceptions dans ces 20 communes les plus peuplées de France, dont celle que je connais bien pour y travailler et pour être aujourd'hui fonctionnaire territorial, à savoir la ville de Villeurbanne. Et du coup, j'en profite pour glisser que mon équipement culturel, le RIS, Centre Mémoire Culture Échange de la Ville, qui travaille sur les mémoires et les patrimoines de cette ville de Villeurbanne, a impulsé justement un inventaire confié à une agence spécialisée, venue de Reims d'ailleurs, qui est en train de faire ce travail qui manquait dans cette grande commune de plus de 500, d'un peu plus de 550 000 habitants aujourd'hui. Mais en règle générale, ces villes possèdent cet outil de connaissance. Alors cet outil a été produit, comme je le disais, par une grande diversité d'acteurs. Mes collègues auront peut-être l'occasion d'en reparler. Et parmi ces acteurs, il en est qui sont encore peu présents, même si on en parle beaucoup, même si on en parle de plus en plus, ce sont les habitants. Et là, on a un enjeu sur lequel nous reviendrons, hein, qui est majeur, c'est-à-dire que on en parle plus qu'on ne le pratique, hein, cette manière d'associer les habitants dans la production de connaissances, mais cela devient de plus en plus difficile de les ignorer. Soit qu'ils soient organisés en association, soit qu'ils soient, je dirais, individus, citoyens qui s'intéressent à leur ville et à leur patrimoine. Je prends là encore l'exemple que j'ai sous les yeux, celui de Villeurbanne, en même temps que je passais commande pour la ville de Villeurbanne d'un inventaire professionnel. J'impulsais également un inventaire participatif qui est en cours, qui se développe à son rythme, mais effectivement dans un rythme qui n'est pas celui de la production des documents d'urbanisme et de la réglementation. Mais effectivement, ce qui peut se produire, c'est qu'à terme, dans le cadre de modifications du PLUI, eh bien, on puisse, c'est tout ce qu'on peut effectivement espérer dans cette mobilisation d'habitants, qu'on puisse intégrer hein, des travaux de connaissance et d'identification qui émanent d'eux, avec une expertise qui est la leur. Dans le cadre de Villeurbanne, l'expertise a été confiée à l'agence d'urbanisme, et d'ailleurs là je salue Julie Troff qui est présente dans la salle, et qui a pour l'agence d'urbanisme produit un certain nombre d'inventaires, on pourrait dire cela, en tout cas de listes d'éléments qui, dans le cadre du PLUI du Grand Lyon, prennent le nom d'éléments bâtis patrimoniaux. Et donc une liste a été ainsi transmise par l'agence d'urbanisme à la ville de Villeurbanne, qui ensuite a fait un travail de sélection sur lequel je reviendrai. Voilà, toujours pour illustrer effectivement qu'il est plus naturel, plus confortable aussi de faire appel à des experts patentés pour faire ce travail de connaissance en matière de patrimoine sur un territoire. Donc comme j'y faisais allusion tout à l'heure, le temps de cette production de connaissances n'est pas celui de la conception des documents d'urbanisme. Il y a un décalage, il y a aussi un décalage dans les objectifs, effectivement, ce n'est pas l'objectif, comment dire, premier hein, de l'inventaire, en tout cas l'inventaire au sens de l'inventaire historique et légitime des services d'inventaire aujourd'hui décentralisés, qui sont dans une production de connaissances scientifiques, finalement, hein, et non pas dans, je dirais, l'élaboration de normes, l'élaboration de prescriptions qu'il s'agirait ensuite de traduire sur le plan réglementaire. Il n'empêche que c'est de plus en plus dans cette optique-là que les collectivités souhaitent aussi, je dirais, mobiliser ces services d'inventaire, ou en tout cas ces méthodologies de l'inventaire, et ce croisement se fait, qu'on le veuille ou non, et avec des difficultés qui sont effectivement imaginables compte tenu de ces objectifs initialement différents. Là encore, les communes, donc, comme je le disais, les plus grandes d'entre elles en tout cas, s'en saisissent, mais pas toutes. Hein, je disais que presque toutes disposent d'un inventaire de leur patrimoine, mais seulement 2/3 d'entre elles, hein, de ces 20 plus peuplées de France, l'ont utilisé dans le cadre du PLU. Donc on voit bien qu'il y a un petit décalage, hein, qui se traduit aussi du point de vue des statistiques. Et dans quelques cas seulement, l'inventaire a été fait spécifiquement pour construire le PLU, ou en tout cas plus exactement pour introduire la dimension patrimoniale dans le PLU. C'est le cas à Lille, à Nice et à Toulon. Donc ce sont des cas qui semblent en tout cas assez minoritaires. Donc il y a un premier filtre, comme je le disais, c'est dans la manière d'identifier, dans les acteurs que l'on mobilise pour l'identification. Mais ensuite, il y a un second filtre qui se fait, c'est à travers le tri, la sélection et la hiérarchisation à partir de cette connaissance dont on se saisit plus ou moins bien selon les cas. Alors là aussi, ça dépend très particulièrement des enjeux locaux, de l'environnement, du contexte, des priorités qui sont données, et plus largement, je dirais, des enjeux et des intérêts qui sont en présence. Je me fierai pour une dernière petite incise au cas Villeurbanne. Pour ce qui concerne donc les propositions qui ont été faites par Julie Troff de l'Agence d'urbanisme, il y avait à peu près 200 éléments qui étaient proposés à la ville pour que ces éléments intègrent finalement le document d'urbanisme. Sur ces 200, une moitié environ a été retenue, sélectionnée, et donc figure dans le document qui a été mis à l'enquête publique en termes d'éléments bâtis patrimoniaux, comme je vous l'indiquais. Et parmi donc cette sélection qui s'est faite, j'ai pu discuter avec les services d'urbanisme et comprendre un petit peu ce qui avait présidé à cette sélection. Et là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on a mis de côté à la fois des éléments dont on pensait qu'ils étaient déjà, partie prenante de projets urbains et susceptibles d'être gênants, hein, dans ce contexte-là, et d'autres éléments que l'on considérait comme, de toute façon, déjà protégés de fait, par exemple parce qu'ils représentaient des bâtiments publics dont on pensait qu'ils n'avaient pas besoin d'être identifiés et protégés au titre du PLU. Donc à la fois les éléments les plus exposés et ceux qui sont le moins. Donc c'est assez intéressant. Et par rapport à cela, donc par rapport à l'expertise habitante qui s'est exprimée dans le cadre de l'enquête publique, en particulier celle d'une association qui s'appelle La Ville Édifiante, une autre centaine d'éléments a été proposée, qui renvoie là aussi à d'autres façons de cerner le patrimoine et le territoire, et en particulier tous les éléments qui sont les plus exposés, c'était vraiment l'approche de l'association, en particulier tout ce qui relève de la typologie des maisons ou des villas, qui dans une ville qui est soumise à une très forte pression foncière, sont des éléments qui tendent à disparaître du paysage urbain. Voilà autant de manières de voir les choses, mais au final un filtre qui est opéré par les services de l'urbanisme et qui se traduit dans le cadre du PLU. Je prends cet exemple-là, mes collègues auront l'occasion de monter en généralité par rapport à ma vision un petit peu étroite parfois. Donc je terminerai donc sur cette idée qu'au final nous avons, comme ça a été dit en termes de photos de classe, une grande diversité dans la manière d'identifier et de faire le tri, avec d'ailleurs tout un vocabulaire qui est d'une grande richesse et qui montre que sur ce plan-là, les collectivités et leurs acteurs ont une grande marge de manœuvre possible. Donc des villes qui ont cette possibilité extrêmement large de faire projet de territoire par des choix plus ou moins affichés, qui ont la possibilité de mettre en avant des spécificités qui sont les leurs et qui ont cette possibilité donc de faire projet à partir d'éléments ressources, hein, que sont ces éléments patrimoniaux. Alors certaines villes sur la photo de classe ont un versant plutôt culturel, hein, dans leurs intentions et dans leurs affichages. Je pense à des villes comme Nantes, Lille ou Rennes. D'autres vont insister plus fortement sur ce versant végétal ou paysager ou naturel. C'est le cas à Angers ou à Dijon. D'autres encore vont insister sur des éléments de patrimoine bâti plutôt anciens et plutôt de prestige, c'est le cas sur la commune de Lyon, et d'autres, en fonction de leur histoire différente, plus récente, vont mettre en avant des éléments plus modestes, plus récents, et je dirais plus associés à des formes en quelque sorte liées à l'activité industrielle, et en particulier dans des villes comme Saint-Étienne ou Villeurbanne ou encore Grenoble. Voilà donc des villes qui assument de manière plus ou moins forte, hein, des histoires différentes et qui choisissent plus ou moins de les mettre en avant. Au final, donc, nous avons des versions extrêmement diverses, extrêmement variées, qui se jouent et qui constituent cette image et cette photo de classe. La notion de patrimoine apparaissant encore assez souvent, malgré tout, comme finalement relevant plus souvent, ou en tout cas trop souvent peut-être, comme un frein potentiel, une limite potentielle au développement local, que comme une véritable ressource. Hein. C'est quelque chose aussi qui apparaît assez souvent et qui peut expliquer certaines formes d'écriture du plus qui peuvent apparaître encore un petit peu en retrait, en deçà, ou d'un certain point de vue un peu frileuse. Ça a été évoqué, ça sera évoqué encore plus longuement dans la suite de notre colloque. Bien, donc je vais pouvoir laisser maintenant la parole à mes collègues qui vont réouvrir le tiroir, comme je vous le disais, le premier de ces deux tiroirs qui sont présentés dans le film, et en particulier donc sous un intitulé qui est celui de la stratégie de sélection des patrimoines dans le PLU. Donc Roméo Carabelli, Mathieu Gigot et Julie Marchand successivement vont revenir sur ces stratégies qui font que l'on identifie et que l'on sélectionne de manière différente d'une commune à l'autre, d'une collectivité ou d'une intercommunalité à l'autre, les éléments qui font valeur patrimoniale. Merci.
Bon. Ben, j'arrive donc de toute façon. Merci, bonjour, bon après-midi et merci. Moi, j'ai une tâche un peu de touriste. Je suis un peu le Cassius conseiller d'Othello, dans l'Othello shakespearien. Donc je viens présenter un tout petit peu des banalités dont on a besoin pour voir comment agir une fois qu'on ouvre la boîte noire. Et donc après, les collègues ouvriront la boîte noire. Donc là, finalement, si j'arrive à le faire fonctionner... Voilà. Donc là, la première chose que je voulais vous présenter, je vous disais, je ne fais que ouvrir la question des banalités sur lesquelles il faut juste faire le point avant d'agir. Et finalement, nous, on va avoir quelle position ont nos objets d'héritage culturel, potentiellement patrimoniaux, qui effectivement ont besoin d'être... identifiés, collectés, mis ensemble, rassemblés, pour pouvoir constituer finalement la composante qui devient la composante patrimoniale de cet objet de planification. Et donc finalement, c'est qu'on essaie de faire, hein, c'est celui de passer d'une juxtaposition d'objets, d'éléments, à finalement une collection qui a tout un sens dans sa formulation, à une collection qui est potentiellement active dans une sorte de volonté de gérer notre territoire. J'ai pris des images totalement exogènes au thème qui est pris en charge, justement pour rester dans le sens le plus généraliste des banalités. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ça rassemble banal, mais nous a mis du temps pour réussir à le découvrir, à le mettre en forme. C'est qu'effectivement, comme dans tous les processus sociaux et humains, on n'a pas tout de suite trouvé une règle incontournable, une règle rigide sur laquelle s'appuyer. Finalement, c'est de là qu'on a abandonné le robot pour arriver au portrait de classe. Et donc, finalement... On voit que celui-là, pardon. Donc finalement, c'est que on traite, là on est dans la première phase de notre travail, global, et la première phase est effectivement celle de réussir à comprendre et à construire la composante, le sous-ensemble de l'univers sur lequel on va agir. Parce qu'en effet, bien que banal, la construction de cet sous-univers est tout à fait caractérisée et liée à un espace culturel, ce qui est tout à fait normal, à les expériences des uns et des autres, des acteurs, et finalement est totalement liée à la composante effective des communautés patrimoniales. Et comme les communautés patrimoniales sur le territoire sont multiples, on les retrouve et on retrouve bien évidemment les volontés des uns et des autres, les intérêts des uns et des autres, ce qui amène finalement à nous retrouver avec des procédures de choix, des procédures d'identification qui sont multiples et qui ne se rassemblent pas de façon globale. Il n'y a pas finalement une règle. Et donc, c'est justement à partir de là qu'on a commencé à essayer de comprendre, de voir comment, à partir de l'identification, de la structuration de ces sous-ensembles, on peut effectivement mettre en place une lecture qui soit globale des expériences. Et au fur et à mesure qu'on augmentait le nombre d'expériences, on s'est rendu compte que les caractéristiques spécifiques de chacun des cas étaient tellement forts qu'ils intervenaient dans une sorte de règle générale. Donc c'est justement sur cet rapport entre une totalité lancée et ciblée sur sa propre expérience locale et une volonté globale qui existe quand même, on a essayé de voir comment on pouvait trouver des sorts, des tendances plus ou moins généralisables. Je ne suis pas vraiment un natif numérique. Et donc là, on s'est rendu compte tout en démarrant que l'acte qu'on commence à faire, le premier qu'on commence à faire, donc la première des séries des actes, est de constituer un sous-ensemble qui soit cohérent. Mais la question, il n'est immédiatement cohérent par rapport à quoi ? En effet, on s'est rendu compte que il y a une partie des constructions de sous-ensembles qui ont une sorte de règle interne, endogène de construction, tant qu'on se structure autour de ce qui rassemble plutôt aux inventaires, donc à la mise en forme de connaissances, et on a aussi une autre façon de structurer des connaissances, d'organiser ces sous-ensembles sur lesquels on sera amené à travailler, qui est plutôt exogène. À partir de là, la volonté, la possibilité de mettre en place un outil de planification est porteuse matrice d'une éventuelle exogénéité dans la règle de cohérence. Donc finalement, on rentre dans la composante qu'on appelle plus souvent de sélection. Donc les deux, ils sont différentes, mais ils se rassemblent et la porosité entre les deux expériences est très élevée. Elle est tellement élevée que souvent on n'arrive pas à comprendre quand on est dans un cas ou dans l'autre. Donc on a vraiment plutôt des tendances, plutôt des liaisons qui n'ont pas des positions fixes. Et pour éviter, en effet, de revenir sur ce qui est une position très structurée, etc., on a essayé de chercher, donc là, par exemple, simplement dans la locution, on préfère utiliser le terme recensement, donc c'est celui qu'on utilisera dans cette communication. Recensement, plutôt qu'inventaire, c'est pas pour se séparer, c'est juste parce que le mot inventaire est tellement caractérisé pour le travail structuré, et structuré depuis désormais des siècles, de l'inventaire avec la I majuscule, le national qui est régionalisé, etc., qui en se sépare. Mais en effet, ce qu'on va voir, c'est qu'on se retrouve avec une tentative, un essai de mise en forme de cette sous-ensemble qui effectivement est un peu comme dans les sables mouvants qui n'a pas toujours la même règle. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils ont abordé en effet l'étude et la lecture de cette composante d'une mise en forme d'un plan d'urbanisme. Ça fonctionne ? Oui. Et donc, ce qui est justement, c'est que globalement, on se retrouve face à un collecte de formations organisées, qui est le terme plus généraliste qu'on a trouvé, la façon plus généraliste qu'on a trouvé pour présenter la manière de mettre en forme les composantes, et ce qu'on voulait justement montrer et faire revenir est que, en effet, on se retrouve avec des volontés et de façons de construire notre sous-ensemble qui étant cohérent à soi-même revient de la partie inventaire, ce qui est tout à fait légitime, correct et bienvenu. Il y a aussi des autres façons de mettre ensemble, de regrouper, de constituer notre sous-ensemble opérationnel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment de la mise en forme, c'est-à-dire dans l'acte de planification, on se retrouve aussi avec des composantes qui intègrent le sous-ensemble, qui n'étaient absolument pas prévues au début. Donc finalement, parce qu'ils n'étaient pas prévus au début, parce qu'ils sont différents par rapport à ce qui était imaginé, parce qu'il dépend de l'expérience des acteurs, des personnes qui agissent, parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Là, le cas que j'ai pris comme exemple, s'il y a des incendies, il y a des incendies, on avoue, ça peut exister. Donc finalement, il y a des règles qui peuvent intervenir plus tard, et donc finalement, on n'est pas parfaitement capable, au début d'un choix de mise en forme de plan de régulation territoriale, d'avoir la connaissance totale du sous-ensemble sur lequel on ira à agir. Dans notre cas, justement, avec l'analyse qui a été faite des PLU en cours, ils essaient de présenter finalement lesquelles sont les tendances qu'on avoue en cours et qui sont effectivement possibles dans le cas français actuel.
Je suis beaucoup plus petit. Hop. Bien, donc merci Roméo. On a effectivement essayé de faire l'exercice de ranger des situations dans des cases pour essayer de clarifier un petit peu le propos, ce qui n'est pas évident et ce qui aussi m'amène à vous dire que parfois les situations sont sans doute plus complexes que ce qu'on a essayé de classifier. Néanmoins, cette idée-là de classifier un certain nombre de situations, on espère... Julie vous en parlera tout à l'heure, essayer de clarifier un peu la façon dont on a pu observer cette variété de situations, du recensement à la sélection des patrimoines, sans entrer pour l'instant dans la partie traduction réglementaire, ce que feront mes collègues demain. Alors, on a défini en introduction la notion de recensement des patrimoines, donc l'acte de caractériser des héritages du passé. Donc de voir si effectivement ils sont des patrimoines, ils sont reconnus comme étant des patrimoines. Et donc cet acte-là, c'est une des premières étapes du processus de patrimonialisation qui va passer dans le PLU ou dans un autre document. Donc c'est d'abord c'est l'identifier, c'est le voir, c'est le repérer avec sa propre culture scientifique, avec sa propre culture aussi d'acteur et son propre héritage culturel ou sa propre pratique. Et donc on est dans cette idée de dire que le recensement, la connaissance va précéder l'action, donc la connaissance précède la sélection des patrimoines, c'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître le patrimoine et les patrimoines avant de choisir, de faire un tri via la sélection. Alors en termes de recensement du patrimoine, en termes du recensement donc des patrimoines, effectivement le recensement c'est pas la sélection. Et on a essayé de regarder combien de méthodes, alors on ne les a pas quantifiées en tant que telles, mais est-ce qu'il y avait beaucoup de méthodes de recensement, quelles étaient les modalités de sélection, et donc on a fait l'exercice de ranger les choses. Alors la première chose qu'on va voir, c'est les méthodes et pratiques du recensement des patrimoines. Alors on a fait l'exercice au travers de l'analyse des PLU des 20 plus grandes villes de France, et d'un certain nombre d'études de cas, hein. Donc notre échantillonnage n'est pas la France entière, c'est un certain nombre de PLU, donc c'est pas forcément représentatif de tout ce qui se passe ailleurs, mais on a ressorti de ça deux grands cas de figure. Le premier grand cas de figure, c'est les recensements qui existent hors des procédures de PLU ou hors de procédures de documents d'urbanisme patrimonial, donc comme les sites patrimoniaux remarquables. Alors, ça veut dire que on fait un certain nombre d'identifications de patrimoine, un certain nombre de recensements dont l'objectif n'est pas forcément d'attacher une règle derrière, donc à la fois dans un PLU ou dans un autre type de document. Alors ça passe par un certain nombre de méthodes, par un certain nombre de techniques. D'abord des inventaires, donc on en a parlé tout à l'heure, mon collègue en a parlé tout à l'heure, des inventaires qui peuvent être faits par les services de l'inventaire avec un grand I, au niveau régional, comme c'est le cas par exemple dans le PLU finalement de Montpellier, au niveau départemental, ce qu'on a observé lorsqu'on allait faire la visite de terrain à pleine commune en Seine-Saint-Denis, ou au niveau local, comme ici à Angers, où il existe un service d'inventaire municipal. Donc on a toujours la même méthode, toujours la même technique, qui est une méthode connue des chercheurs de l'inventaire, mais qui va se décliner à plusieurs échelles et dont les résultats peuvent être réutilisés dans le cadre d'un plan local d'urbanisme. Donc il s'agit bien de produire des connaissances sur la question du patrimoine, d'organiser ces connaissances, de les faire connaître à travers différents outils, dont les atlas du patrimoine, la base Mérimée ou d'autres outils. On a aussi des recensements. Je me demande si je ne suis pas passé un peu vite. Voilà, des recensements qui peuvent être liés à des actions de médiation. Alors j'ai rangé ça sous ce terme-là. Alors ce que j'appelle les actions de médiation, c'est par exemple des recensements du patrimoine qui peuvent être conduits par des acteurs comme les CAUE ou les villes et pays d'arrêt d'histoire, où les méthodes là aussi varient d'une structure à une autre et sont fonction des objectifs qui là aussi sont des objectifs hors PLU. Donc il peut s'agir de sensibiliser les acteurs publics ou les habitants à la dimension patrimoniale d'un territoire. Donc j'avais retrouvé à cet égard une brochure du CIE 76 qui s'intitulait « Identifier, préserver, reconvertir », qui était hors procédure PLU, mais qui donnait un certain nombre d'outils pour identifier les patrimoines et mettre en œuvre les conditions de leur restauration. Et on retrouve aussi ici les chartes, notamment les chartes architecturales et paysagères, qui n'ont pas une valeur juridique en tant que telle, puisque ce sont des chartes, enfin, en tout cas elles sont issues du droit souple, mais qui ont le mérite d'identifier, de faire ce travail d'identification des patrimoines. Et on parle aussi, mon collègue l'a dit, et je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir, ou en tout cas qui est en train de se développer, la question des inventaires participatifs. Alors j'ai mis ici l'exemple du parc national, du parc PNR, du parc naturel régional, pardon, des Monts d'Ardèche, qui a lancé une démarche d'inventaire participatif, mais cet exemple-là n'est pas exclusif des autres. Et on a aussi des recensements plus ponctuels qui sont liés à une commande dont l'objectif premier n'est pas nécessairement d'attacher une règle. Alors ça peut arriver par la suite, mais en tout cas dans la commande, ce n'est pas forcément l'objectif. Je vous ai mis ici un exemple qui est une étude qui avait été conduite dans les années 90 à Tours sur la question du patrimoine 19e, qui finalement a servi à nourrir le plan d'occupation des sols à l'époque, puis le PLU par la suite, mais qui au départ n'était pas forcément prévu pour attacher des règles. Le deuxième grand cas de figure, il faut appuyer très fort. Le deuxième grand cas de figure, ce sont évidemment les recensements qui sont faits, qui sont conduits dans le cadre d'une procédure de plan local d'urbanisme, donc qui sont vraiment pensés pour être intégrés par la suite au plan local d'urbanisme. Et là, on trouve aussi plusieurs cas de figure, plusieurs types. La première chose, ce sont les recensements ciblés. Les recensements ciblés, ils le sont sur une portion de territoire prédéfinie dont on suppose qu'elles peuvent renfermer des richesses patrimoniales. En tout cas, c'est un prérequis que les acteurs, alors qu'ils soient élus ou techniciens, pensent que c'est ici qu'il faut chercher, que c'est ici qu'il faut faire un recensement du patrimoine, mais on ne le fait pas forcément sur l'ensemble du territoire. Ou bien des recensements ciblés sur des typologies de patrimoine particulières. C'est le cas, par exemple, de certaines communes qui vont aller chercher des données sur le patrimoine industriel, sur le patrimoine balnéaire ou autre. Et le deuxième type, évidemment, changer, ce sont les recensements, je suis allé trop loin encore, généralistes. Voilà. Donc, les recensements généralistes, enfin, ce qu'on a appelé généralistes, donc là aussi se font en fonction de plusieurs méthodes. On a vu toute une variété de situations qui dépend à la fois du profil des acteurs, du positionnement aussi des acteurs. Effectivement, lorsque le PLU est fait en régie, comme ça a été le cas en Angers Métropole, bon, on n'a pas tout à fait les mêmes situations, on n'a pas tout à fait le même temps de travail, la même économie non plus qu'un PLU qui est fait par un cabinet d'études, donc en prestataire. Le profil des acteurs qui font les recensements joue aussi beaucoup. Si l'acteur est architecte, s'il est historien, s'il est urbaniste ou technicien. Donc là, on a observé un certain nombre de situations différentes qui amènent à des recensements différents. Et puis, enfin, les moyens humains et les moyens financiers qui sont dédiés à ces recensements. En fonction de l'argent qu'on injecte dans la phase de recensement des patrimoines ou l'argent ou les moyens humains, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on va mobiliser pour effectuer ces recensements, on aura évidemment des résultats qui sont différents. Et donc, on distinguera notamment dans les techniques de recensement ou les méthodes de recensement qu'on a pu observer, des méthodes qui sont liées à des analyses typomorphologiques, des analyses plus architecturales ou des analyses urbaines. Alors, je vous ai mis quelques exemples par la suite. Des rapports de présentation de PLU, de recensement qui sont liés à la mémoire, à l'identité du territoire, qui font appel à ces notions-là. Ou ici, un exemple à La Riche, à côté de Tours, d'un recensement, d'un diagnostic patrimonial qui a été conduit par les services de l'inventaire au niveau de la région et qui avait fait le choix de faire une évaluation du patrimoine dans cette commune en distinguant des niveaux de valeur patrimoniale, ce qui a conduit ensuite à un travail par les élus, par les techniciens de la collectivité et de l'agence d'urbanisme de Tours qui les a accompagnés, de définir ce qu'on gardait finalement, ça a précédé cette étape de la sélection des patrimoines dans le PLU. Alors la sélection des patrimoines, justement, la sélection des patrimoines, on distingue effectivement dans cette communication ces deux étapes qui sont le recensement d'une part et la sélection d'autre part. Donc le tri, en réalité, elles se répondent. C'est ce que ma collègue va vous raconter tout à l'heure. La sélection des patrimoines, donc, elle dépend aussi de plusieurs facteurs et on va commencer par regarder les modalités d'insertion des patrimoines sélectionnés dans le PLU. Merci, je ne m'en sors pas. Donc la représentation des patrimoines sélectionnés dans le PLU, là aussi on a observé une diversité de situations qui ont des répercussions notamment sur le volet juridique, dont je ne dirai pas un mot pour ne pas voler le travail de mes collègues. Il y a d'abord le cas où on n'a rien, c'est-à-dire on n'a pas de liste, on n'a pas de fiche. Alors c'est le cas dans certains PLU qu'on a analysés. Et donc on a des repérages uniquement dans le plan de zonage, qui est aussi une pièce réglementaire. On a un deuxième cas, voilà, où on a des fiches, donc des fiches de recensement du patrimoine, qui sont placées dans une annexe patrimoine, mais qui n'ont pas forcément, alors qui peuvent avoir, mais qui n'ont pas forcément une incidence réglementaire. Donc c'est le cas ici sur l'exemple que j'ai pris. Et on peut aussi avoir des listes, voilà, qui là aussi peuvent être illustrées, pas forcément illustrées, qui ont une portée informative, sans forcément avoir une portée prescriptive. Alors dans les deux exemples que j'ai mobilisés ici, ce sont des listes présentes dans les rapports de présentation de PLU, qui n'ont pas de portée réglementaire, mais qui sont à titre informatif. Et qui peuvent avoir l'utilité de renseigner les instructeurs lors de l'instruction des permis de construire ou l'habitant qui voudrait en savoir un peu plus, même si là aussi, dans les fiches, on observe des fiches plus ou moins développées avec plus ou moins d'informations. Donc sur l'exemple de gauche, c'est très restreint. On a juste la dénomination du patrimoine qui a été repéré. Dans la fiche de droite, un petit peu plus de renseignements avec une photo, une localisation un peu plus précise. Troisième ou quatrième cas, des représentations des patrimoines par des périmètres qui, donc là c'est l'exemple de Lyon à droite, un extrait à gauche assez peu lisible, je l'avoue, du PLU de Marseille, où on associe souvent ces périmètres à des zonages réglementaires. Alors, on a dégagé 3-4 figures sur cette histoire de la sélection des patrimoines. trois cas de figure qui reviennent souvent. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas un quatrième cas de figure. En tout cas, c'est trois cas de figure qu'on a vu revenir un peu régulièrement. Le premier cas de figure, j'ai repris un visuel du film d'ailleurs, c'est le cas où le territoire est concerné par un site patrimonial remarquable. Et dans ce cadre-là, donc c'est le cas notamment à Bordeaux, le PLU, c'est l'occasion d'identifier, de retenir des patrimoines d'intérêt local, c'est-à-dire des patrimoines de second rang, comme on les a appelés dans notre documentaire. Ce que pourrait permettre, mais pas fatalement, le PSMV ou le PVAP. Et donc le PLU, ici, on va sélectionner des patrimoines qui sont des patrimoines d'intérêt locaux. Le deuxième cas, c'est le cas où le territoire est concerné par d'autres contraintes et d'autres servitudes, donc qui vont influencer en tout cas la sélection des patrimoines. Par exemple, les plans de prévention des risques, on l'a observé surtout sur le risque inondation, peuvent déjà sanctuariser des portions de territoire. Et donc, on peut se poser la question de savoir si on a besoin d'identifier, de sélectionner, de zoner, d'attacher du règlement à des patrimoines qui sont indirectement protégés par d'autres types de servitudes. Et donc, dans ce cas-là, on va se poser la question de la plus-value de la sélection patrimoniale. Et le troisième cas, c'est le cas où le territoire peut être concerné par un certain nombre de facteurs qui peuvent être des facteurs de pression foncière, d'enjeux de renouvellement urbain ou de grands équipements. Donc là, on a observé aussi des situations très différentes entre les contextes très urbains et des contextes plus ruraux. Et dans ce cadre-là, la sélection des patrimoines peut être une façon d'anticiper ou de se protéger d'un certain nombre de mutations, et donc d'essayer d'ajuster le curseur de ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas, ou en tout cas le tri du patrimoine, pour répondre à ces enjeux. Par exemple, un grand équipement de transport peut prendre le pas sur le patrimoine, tout comme l'injonction aujourd'hui d'arrêter de construire en zone périurbaine ou d'arrêter d'urbaniser les terres agricoles peut conduire à une densification des centres-bourgs et donc à mesurer quel est l'enjeu de la protection du patrimoine dans ces centres-bourgs par rapport à l'idée de densification ou comment est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble. Donc ces deux étapes qu'on a essayé de définir s'imbriquent, sont parfois linéaires, et je vais laisser la parole à ma collègue qui va vous présenter la modélisation, un essai de modélisation des trajectoires de production du PLU.
Alors oui, Mathieu vous a présenté du coup plutôt une partie, je dirais, qui est de les différentes étapes. Et moi, mon travail, ça va plutôt être de vous montrer comment ces étapes s'imbriquent et surtout comment elles sont contextualisées. C'est-à-dire qu'il vous a présenté effectivement quelques cas de figure qu'on a pu observer. Et l'idée, en fait, c'est de regarder à la fois ces méthodologies, mais avec un premier contexte qui est le territoire. Donc avec, on le verra, différentes formes d'enjeux qui donnent des contextes différents, et à la fois différents acteurs aussi, puisque mon domaine étant la sociologie, moi je vous regarde, c'est ça mon travail. Donc du coup l'idée c'est vraiment de regarder en fonction des différentes professions qui ont pu, professions d'ailleurs, ou des élus ou des habitants qui ont pu intervenir, finalement comment ça s'est croisé. Donc on a proposé effectivement l'idée d'un tableau à double entrée. Alors c'est mon tour de galérer avec le télécommande. Je te remercie. Donc l'idée effectivement c'était de, alors on va dire, de placer les différents exemples qu'on a pu regarder dans des catégories. Bien évidemment, on ne se place pas comme étant, enfin, juge de chaque PLU, dire il rentrerait plus dans cette catégorie-là ou de cette catégorie-là, mais l'objectif était finalement de dire, par exemple, pour les enjeux qu'on a définis comme endogènes ou les enjeux exogènes et exogènes spécifiques, de dire on a des configurations, je vais définir bien sûr ces termes, on a des configurations différentes, mais des configurations différentes qui vont être, on va dire, où on a une dominante. Et puis, de la même manière, on va avoir des acteurs qui sont plus ou moins investis. Et au regard de ça, on a choisi finalement un axe majeur. C'était de dire, au croisement de tel enjeu et de tel acteur, on est arrivé à placer finalement ce PLU-là. Donc, si je définis les entrées de mon tableau maintenant, on a ce qu'on appelle les enjeux endogènes. C'est finalement tout ce qu'on va mettre derrière. C'est le patrimoine, bien évidemment, qui est présent sur la commune. Ça va être l'histoire, sa géographie, son identité territoriale, mais également les acteurs qui sont présents sur le terrain. Et puis aussi, mine de rien, la ligne politique, parce qu'on est quand même sur un document qui est éminemment politique. Par ailleurs, pour ce qui est des enjeux plutôt exogènes, là, on a sorti le spécifique que je vais vous définir après, mais les enjeux exogènes, c'est plutôt tout ce qui va être appliqué à ce territoire, mais qui n'est pas de l'ordre, qui n'en est finalement pas issu. Donc ça peut être par exemple une politique publique qui va venir s'appliquer à un territoire ou un document qui est un, je dirais, supraterritorial, comme un SCOT pour un PLU par exemple. Donc on a ces différents, je dirais, ces influences supplémentaires sur le territoire, mais qui ne sont pas issues du territoire. Et puis un troisième, donc, qui est l'enjeu exogène spécifique, pourquoi on a sorti celui-ci en particulier, c'est les autres protections du patrimoine. Puisque depuis le départ de notre programme de recherche, on s'est dit effectivement qu'on voulait mettre en rapport ce PLU patrimonial au regard de, notamment des sites patrimoniaux remarquables. Et donc c'était pour regarder, avoir un coup de projecteur sur cet axe particulier. Les acteurs maintenant de l'autre entrée, finalement, l'idée c'était de choisir. Donc bien évidemment les élus, puisqu'ils sont à l'origine ou non d'ailleurs de ces documents, mais ils ont un rôle à donner, on en définira ça après. Et puis les techniciens, alors de ce qu'on rentre dans nous, la notion de technicien, ça va être finalement les experts, mais qui sont donc de formations diverses et variées, qui peuvent être urbanistes, architectes, qui peuvent être également des agents de collectivités qui ont des formations très variées, puisque l'urbanisme étant une discipline extrêmement large, nous avons à peu près, entre le juridique, le géographique, voilà, des disciplines finalement très diverses. Et puis aussi, on n'a pas fait de distinguo dans cette catégorie, à savoir si c'était des agents qui finalement étaient intégrés à la collectivité ou si c'était des prestataires extérieurs qui avaient été donc finalement sollicités pour réaliser ces documents. Et puis donc un troisième axe, comme l'a dit Vincent, effectivement, qu'aujourd'hui on ne peut plus ignorer, qui sont les citoyens. L'idée étant effectivement de voir comment la mobilisation citoyenne ou l'habitant aussi peut amener à une prise de conscience d'un patrimoine dans le PLU. Alors au croisement de ces deux entrées, on a effectivement, donc on peut prendre par exemple le PLU de Grenoble. Le PLU de Grenoble, on est sur une dominance très écologique, mais c'est une volonté politique. Alors effectivement, en point de vue de territoire, on est sur un territoire de montagne, avec en plus de très forts enjeux écologiques du fait de la pollution, puisqu'on sait tous qu'il y a une jolie petite chape de pollution dès qu'il fait un peu chaud à Grenoble. Voilà, ça fait partie de... C'est ce qui a motivé sans doute l'électorat à se positionner sur un vote écologiste, mais le maire écologique, finalement, a cette volonté-là de traduire ces enjeux-là dans le document. Et finalement, c'est du coup cette prise en compte politique qui va amener à faire un PLU qui sera très positionné, notamment sur le patrimoine naturel, notamment sur l'angle des cônes de vue, sur le paysage lié à toute cette dominance écologique. On peut aussi avoir des PLU qui finalement, et là c'est là où la question d'un scénario vient se superposer à ce classement, c'est qu'en fait, selon l'ordre de passage des différents acteurs dans le processus, on n'aura pas la même lecture. L'élu qui initie un PLU va être dans une démarche, effectivement, comme à Grenoble. Par contre, si on est sur un élu qui, du coup, va se retrouver en deuxième position suite à une proposition, par exemple, des techniciens, et c'est le cas, par exemple, à Villeurbanne, dont parlait Vincent, on a cet élu qui va arbitrer, dire si oui ou non on va sélectionner un patrimoine qu'on lui a mis à un moment donné, qu'on a sélectionné. Ça va être le cas aussi à Montpellier, où, enfin, je ne vais pas vous faire l'article sur Georges Frêche, mais on a eu un maire, nous, particulier, je dis ça parce que je vis à Montpellier, on a eu un maire qui était particulièrement volontaire en termes d'urbanisme, mais qui, du coup, peut-être au regard du PLU actuel, a supprimé un certain nombre de patrimoines. Voilà, la question est aussi cette question de la temporalité de la création du document. Et puis on a, par exemple, la Riche, petite commune proche de Tours, qui, elle, va être plutôt dans une démarche de dire bah, l'élu arrive en pareil, en deuxième position, on propose un recensement du patrimoine, on lui fait une sélection et dit non, là, on va faire passer un tramway. Donc, sur cette section-là, y a un autre enjeu qui est l'enjeu des mobilités, qui est aussi un enjeu propre au territoire, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir faire réaliser voilà, le parcours à ses citoyens. Mais il va se superposer et venir contredire finalement l'enjeu patrimonial. Donc la position de l'élu sur cet enjeu-là, finalement, elle peut être très catalyseur d'un patrimoine ou au contraire, finalement, arbitraire. Après, on a une position plutôt sur les techniciens. Donc, alors, on va continuer sur la ligne des élus d'abord. La ligne des élus, donc, si on part par contre sur des facteurs exogènes, mais qui ne sont pas des protections du patrimoine, ça peut être comme à Strasbourg, où là, on est sur une logique d'UNESCO. Donc là, on veut faire une démarche UNESCO et pour répondre à cet enjeu-là, on va venir du coup rajouter une dominante culturelle et patrimoniale à son PLU. Ça peut être aussi la logique de Strasbourg. De Marseille, qui elle plutôt s'inscrit à la suite d'une politique qui était haute, qui est Marseille ayant été capitale européenne de la culture, a voulu traduire ensuite dans son PLU des objectifs patrimoniaux. Ça peut être le cas du Grand Chambord, qui finalement est une commune de moindre taille, donc là on est à l'échelle d'un PLUI déjà, et sur cette communauté de communes, on est plutôt sur une logique de dire qu'on a une politique publique qui est le passage au PLUI, qui va du coup faire prendre conscience aux élus, mais aussi aux techniciens, puisqu'on voit que le Grand Chambord est dans la deuxième case en dessous, finalement, de se dire, on va faire cette politique patrimoniale au moment du passage au PLUI. Mais c'est la politique de PLUI qui va faire cette prise d'initiative. Et pour les élus, toujours, donc si on continue sur notre ligne des enjeux exogènes, mais cette fois-ci spécifiques, ça va être cette question de lisibilité qui était légèrement traitée dans le film aussi. Finalement, en présence d'une protection du patrimoine, comme à La Riche, des abords, et ce n'est pas le seul cas, Angers ou Strasbourg ont aussi traité cette question-là, quand on est en présence d'abord de MH, il y a une faible lisibilité pour l'usager et le citoyen de cette finalement politique patrimoniale qu'il aurait appliquée dans leur gestion du droit des sols, donc finalement dans leur projet à eux. Et l'idée, c'est effectivement, en passant au PLU patrimonial, ou en tout cas en mettant du patrimoine dans le PLU, l'idée, c'était effectivement de pouvoir clarifier ça et de dire tel élément est patrimonial ou ne l'est pas. Si nous prenons la ligne des techniciens cette fois-ci, alors on a trois cas qui finalement se dessinent assez facilement, Bordeaux, Lyon et Montpellier. Trois cas qui ont effectivement été initiés par des techniciens et qui en fait sont plutôt dans une démarche, donc pour la partie des enjeux endogènes, les techniciens se sont saisis donc, du patrimoine qu'il y a sur place. Pour Bordeaux, ça va être la ville de pierre. C'est l'idée effectivement de favoriser un patrimoine bourgeois lié au viticole et de le faire finalement émerger aussi via le PLU. Pour Lyon, ça va plutôt être la logique du patrimoine ordinaire comme ressource du projet. Donc là, on a vraiment une logique de faire émerger l'autre patrimoine qui n'est pas protégé, mais aussi dans cette idée du patrimoine ordinaire, qui est une notion bien lyonnaise. Et puis à Montpellier, ça va être le patrimoine des folies, ce qu'on appelle les folies, ce sont les petits immeubles bourgeois, plutôt les grands immeubles d'ailleurs bourgeois, qui avaient en fait des propriétés en zone plus rurale. Leurs propriétaires avaient effectivement des résidences secondaires en marge de la commune de Montpellier, puisqu'on a accueilli la Cour des Aides à l'époque du XVIIIe siècle. Et finalement, ces grandes demeures-là sont en territoire agricole aujourd'hui et sont un patrimoine qui a été repéré au PLU et uniquement au PLU pour tout ce qui était petit hameau agricole qui venait composer leur environnement. Quand on prend les enjeux exogènes, et pour les trois en question dont je viens de parler, c'est principalement l'enjeu foncier et l'approche démographique qui du coup vient se superposer. C'est-à-dire que là, sous l'effet de la pression foncière, à Lyon, ce sera plutôt un phénomène de densification qui s'impose. Je parle de ça sur l'analyse d'une recherche qui date un peu, puisque Montpellier est aussi dans cette démarche de densification actuellement. Mais c'est vrai qu'à une époque, on était plutôt sur une démarche d'étalement urbain. Et c'est finalement l'étalement urbain qui a aussi justifié qu'on prenne en compte ces territoires ruraux qui n'étaient pas pris en compte jusque-là. La densification à Lyon a effectivement justifié sans doute une prise en compte dans le PLU, de la même manière qu'à Bordeaux, on a commencé à surélever ces fameuses résidences de la ville de Pierre, et donc ça a aussi mobilisé en partie les techniciens sur ces questions-là. Et puis alors effectivement, ces trois terrains ont aussi en commun d'avoir une prise en compte, mais parce que le patrimoine qui est pris en compte ailleurs, donc finalement par des SPR, soyons clairs, on a pris une forme de... On a fait en fonction, en fait. C'est-à-dire qu'on est parti du SPR et à partir de là, on a composé le PLU. Donc l'idée, c'était de dire, sur Bordeaux, on a un SPR qui correspond finalement au cœur-centre et on va faire un croissant autour avec un recensement, avec une procédure de sélection, avec une réglementation. De la même manière que sur Montpellier, on est plutôt sur du centripète, puisque vous avez le PSMV qui est l'écusson, aujourd'hui, les AVAP qui sont finalement la première couronne, et puis on a un PLU qui vient faire cette forme de zone tampon. On le voit assez bien dans le film d'ailleurs. Et puis sur Lyon, là c'est le périmètre UNESCO, et puis plus largement finalement on est allé chercher beaucoup plus loin dans les autres arrondissements ce qui faisait patrimoine, et notamment pour le projet urbain. Et puis si on part sur la ligne des citoyens, alors là, on a effectivement des mobilisations. Ça passe souvent par, pour la première case, en tout cas des enjeux endogènes, ce sont des inventaires participatifs ou des inventaires qui ont été faits par des citoyens. Donc là, sur Strasbourg, c'était le cas. Sur Grenoble, on a à la fois cette démarche politique, mais on a aussi un inventaire qui a été souhaité par les citoyens, notamment sur le patrimoine industriel. La Ganterie, par exemple, a donné lieu à une mobilisation citoyenne et a insufflé finalement cette volonté de prendre en compte un patrimoine qui n'avait pas été repéré jusque-là. Et sur Angers, c'est l'annulation par le tribunal administratif du premier PLU, par cette première mobilisation citoyenne qui finalement va amener la prise en compte dans le PLU. Mais alors on a aussi, et c'est ce qui, je dirais, aussi motive d'ailleurs, on le verra pour la partie des enjeux spécifiques. Et pour ce qui est de... Alors, je distingue moi assez bien le citoyen de l'habitant, parce que finalement le citoyen... C'est une mobilisation souvent associative qui va amener ce patrimoine-là, parce que le citoyen seul et à part dans des démarches de concertation organisées par le politique ne vient pas lui-même se présenter pour dire « je voudrais sélectionner ce patrimoine ». Mais par contre, on a des parfois l'habitant peut aussi révéler le patrimoine. C'est le cas par exemple à Lyon. Il y a quelques années de ça, on s'est rendu compte sur la cité Tony Garnier, qui est un bâtiment qui n'avait aucune protection, mais même pas d'identification. Et Grand Lyon Habitat a décidé de lui mettre une jolie isolation technique par l'extérieur. De là, il y a eu une prise de conscience, et par le Grand Lyon, et par voilà, un certain nombre d'acteurs qui se sont dit « cet élément-là est passé à travers les mailles du filet, il va falloir qu'on y travaille dessus ». J'ai eu le cas, donc on en parlait avec Cécile dans le train, aussi, de la Ganterie, dont on parlait tout à l'heure, qui effectivement a été en fait le cas d'une autre Ganterie, celle de Saint-Bruno, c'est ça, a par exemple été effectivement dans ce cas-là aussi, c'est-à-dire on a eu un projet urbain qui s'est implanté sur ce site-là, et au prétexte que la Ganterie, la deuxième, avait été protégée au titre du PLU, ils se sont saisis de ça pour justement dire celle-ci aussi, il n'y a pas de raison qu'elle n'y soit pas. Alors, ouais, ça marche. Ou alors c'est toi qui fais le... Très bien. Donc finalement, de tout ça, on en tire quoi ? On en tire des trajectoires et on en tire des tendances. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte effectivement qu'il y a certains éléments, notamment que finalement l'identité territoriale, forcément, a une certaine influence quand on est en présence d'élus qui y sont sensibles. Ça peut être l'histoire ouvrière d'un territoire, ça peut être un patrimoine très naturel, ça peut être, voilà, mais chaque sensibilité de l'élu, et ça va à la fois de sa personnalité, mais aussi de sa propre culture, et là j'insisterai vraiment là-dessus, c'est la culture des élus qui fait que dans un PLU fait par des élus, on va aller vers telle tendance ou telle tendance, de la même manière qu'il y a effectivement la question du politique, et donc le courant politique dans lequel il s'inscrit, qui va sans doute influer aussi. On a aussi... je dirais sur la culture, il y a aussi la culture des acteurs, puisque finalement on se rend compte que les techniciens qui sont à l'articulation de ces PLU un peu typiques, qui prennent en compte les SPR, qui vont chercher, qui confrontent les enjeux fonciers et qui tiennent compte aussi de toutes les, finalement, les éléments endogènes du territoire qui n'ont pas été pris en compte jusque-là, on est plutôt sur des profils avec des cultures variées. Et là, moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est de voir ce croisement entre les disciplines, et les disciplines de l'urbanisme et de la culture. C'est le cas de Bordeaux, par exemple, où vous avez un service avec la MIRPO, qui est un service transversal et qui se veut être un service du patrimoine urbain. Ça va être le cas de la mission Grand Cœur à Montpellier, qui joue ce rôle-là, comme elle le peut, avec, effectivement, sur le rayon centre aujourd'hui du PLU de Montpellier, mais son objectif, c'est effectivement d'avoir ce rôle-là à l'échelle intercommunale également. Donc on a cette culture des acteurs. On a aussi la prise en compte du foncier, mais la prise en compte, même je dirais plus largement de ça, de différents enjeux. C'est finalement aussi le rôle des agences d'urbanisme. Elles ne sont pas présentes sur tous les territoires, mais finalement on se rend compte que les PLU réalisés par les agences ont justement cette faculté à prendre en compte à la fois le patrimoine et à la fois les différents enjeux plus larges, ce qui s'explique tout simplement parce qu'ils ont effectivement des disciplines représentées très larges en leur sein. On a aussi quelques éléments méthodologiques, et là on s'est rendu compte notamment que quand un PLU, et encore une fois on raisonne à l'échelle d'une 10 à 15 PLU sur notre échantillon, une volonté de faire un inventaire par la collectivité dès lors qu'il y a une mobilisation citoyenne. Donc finalement, suite à la mobilisation citoyenne, on va lancer un inventaire, voire un inventaire complémentaire, comme dans le cas de Strasbourg, et puis on va venir hiérarchiser la sélection. Et alors, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir effectivement qu'en fonction des acteurs, on ne va pas avoir un PLU qui est conçu pour le même objectif ou la même fonction. C'est notamment, donc, quand on est avec des élus, on est plutôt sur une logique de PLU alternatif, c'est-à-dire de venir fonctionner autrement que sur la politique, par exemple, des abords, dont je parlais tout à l'heure. On va être plutôt sur un PLU complémentaire, je le disais, les techniciens conçoivent en fonction du SPR, et puis en fonction si ce sont des habitants, quand ils sont dans la position d'habitant et quand ils sont dans la position de mobilisation citoyenne, dans les deux cas, on est plutôt sur un PLU qui va mettre l'accent sur une absence, mais un constat de défaut finalement, et donc initier. C'est le cas d'Angers où on a finalement un PLU qui a donné l'idée d'un PSMV. Donc on est allé dans un, on remonte l'échelle de la protection patrimoniale pour ce cas-là, mais on est sur cette logique de. Alors, hop, oups, là c'est moi qui vais trop vite. Je terminerai donc avec les tendances, parce que l'idée c'est effectivement de regarder, de raisonner aussi à l'échelle donc des élus, des techniciens et des citoyens dans leur globalité, tous enjeux confondus. On a finalement un recours quand le PLU est initié par un élu, plus généralement avec un inventaire qui est déjà préexistant, régional ou local, et puis une logique, lorsqu'elle existe, de se tourner vers l'agence d'urbanisme pour le réaliser. C'est plutôt une tendance méthodologique. On a, pour le coup, constaté aussi un certain nombre d'acteurs qui croisent leur vision, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cette acculturation entre acteurs de l'urbanisme et de la culture qui travaillent ensemble, main dans la main. Donc là, on est plutôt sur... donc le cadre plutôt réalisé par les techniciens. Et puis, on a une tendance aussi à lancer, ce que je vous disais, un recensement post-mobilisation citoyenne qui prend en fait généralement effet, la mobilisation, soit au moment de la concertation, soit au moment de l'enquête publique. Puis, on va avoir des tendances par enjeu qui sont plutôt de dire, effectivement, on a quand même observé un certain mimétisme, parce que même si on vous a montré, et Mathieu, avec les différentes légendes qu'on peut observer, on n'a pas de règles aujourd'hui pour le PLU avec une légende déjà cadrée, on retrouve quand même nos idées du NICOM, de série ou de séquence ou d'espace. Donc on se retrouve finalement dans une forme de protection du patrimoine très approchante du SPR. Alors après, le vocable, et là on pourrait en faire un catalogue, je pense, vu ce qu'on a constaté, puisqu'on a toutes sortes de formes, je dirais littérales, du patrimoine recensé ou sélectionné. Mais effectivement, on est sur des méthodologies quand même qui ressortent au final assez proches du SPR. Et puis on a effectivement, du coup, deux types de médiation, puisque l'idée du PLU, c'est finalement de faire cette articulation entre les différents enjeux d'un territoire. Et au final, on est plutôt sur une médiation qui est assez choisie lorsqu'on est sur des facteurs endogènes. Donc quand on va avoir un élu politique volontaire, quand on est sur une démarche de partir du territoire, etc., on est plutôt sur qu'est-ce qu'on va garder au profit de ce qui fait l'identité de notre territoire. Et par contre, quand on est contraint par des enjeux extérieurs, ça va être une médiation parfois subie aussi avec ce document. Oups là, je suis allée trop vite. Et alors je termine aussi avec ça. Je vous ai dit, le scénario, finalement, c'est aussi la place de l'acteur. On se rend compte notamment que l'élu n'est pas forcément au même niveau dans la démarche, que ce soit donc lui l'initiateur. Et là, il va plutôt être dans un rôle d'initiateur, mais c'est sa conviction qui va l'y amener. Donc, ce que je disais, la personnalité, sa culture. On est aussi dans une logique là où il va jouer plutôt le rôle d'arbitre, s'il est positionné après ou entre deux techniciens, parce que selon les collectivités, la MIRPO étant un exemple à part à Bordeaux, mais on a souvent un service patrimoine qui va mobiliser l'élu pour prendre en compte avec l'élu, et puis l'élu qui du coup va rebasculer sur le service urbanisme quand on n'a pas d'agence pour faire et l'avant et l'après. Donc du coup, c'est vrai que on a ce rôle d'arbitrage, et puis on a le rôle de représentant du peuple finalement, parce que l'élu qui va se saisir de la mobilisation citoyenne et le traduire. Donc on est sur une posture différente, et par contre on se rend compte aussi que les techniciens des collectivités, et ça rejoint d'ailleurs des conclusions qu'on avait au congrès de Cité Remarquable, qui est de dire qu'aujourd'hui il faut des moutons à cinq pattes pour croiser effectivement toutes ces thématiques et être capable d'agir sur ce patrimoine urbain avec des compétences en urbanisme, des compétences en architecture, des compétences en histoire, voilà. Donc on est sur une multiplicité de besoins. Alors on m'a chargé de faire la conclusion de cette session, puisque je suis au micro, pour éviter de changer de personne. Effectivement, on vous a présenté donc les méthodologies à la fois de recensement et de sélection. Et je pense que, voilà, très modestement, cet essai de modélisation, c'est histoire de vous donner quelques petits axes de réflexion. Je pense que ça ouvre largement la recherche pour la suite, qu'on est très loin d'avoir conclu sur quelques dizaines d'éléments qu'on a pu analyser. Après, c'est vrai que on lance une question pour la journée de demain, qui est de dire qu'effectivement, une fois qu'on a produit toute cette connaissance, une fois qu'on l'a sélectionnée, est-ce qu'il y a un réel dialogue entre les différentes pièces du PLU ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ça, comment ça se traduit ou non dans le règlement ? Et puis l'idée, c'était aussi de montrer avec ces tableaux une certaine transcendance de ce que le projet urbain veut ou non, c'est-à-dire qu'en fonction des acteurs qu'on mobilise et en fonction des enjeux qu'on choisit de favoriser ou pas, quel projet on va dessiner. Notamment, c'est cette histoire de curseur dont on parle dans le film, qui est vraiment de savoir où on positionne ce curseur. Est-ce qu'on le positionne plus vers le patrimoine ou plus vers la mutation du territoire ? Et donc, du coup, le projet n'a pas forcément la même destination. Je vous remercie de votre attention.
Bien. Alors, je vais prendre la suite. J'ai la lourde tâche de lancer le débat, mais avant, alors donc je vais me présenter d'abord. Bruno Marmioli, je suis directeur de la mission Val-de-Loire Patrimoine Mondial, qui est donc la structure, le syndicat mixte interrégional qui s'occupe de la valorisation, de la connaissance et de l'appropriation, des valeurs de l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial. Donc, on tourne toujours autour des mêmes sujets. Il faut que je me rapproche. On va y arriver. Voilà, donc, avant d'ouvrir les questions, moi, j'avais quelques remarques. Je trouve déjà remercier les organisateurs et les intervenants, parce que je trouve, et intervenantes, évidemment, parce que je trouve que c'est très clair et très éclairant. Et en même temps, évidemment, ça suscite tout un tas de questions. Ça nous renvoie aussi à nos propres handicaps, freins, incompétences sur tout un tas de sujets dès lors qu'on travaille sur la question du patrimoine et des outils réglementaires. Moi, alors, à la question du quoi, qui a été quand même largement traitée, j'avais envie de proposer une autre interrogation qui est plutôt le qui. C'est-à-dire qu'on a souvent utilisé comme terme le « on définit, on choisit, on », mais il me semble que le « on » n'est pas suffisamment clair pour qu'on puisse véritablement rentrer dans le champ des systèmes d'appropriation, en tout cas de ceux sur lesquels on essaye de travailler. Et je regarde mes collègues... et voisins, Mathieu et Roméo, puisqu'effectivement, on suit collectivement un travail de recherche dont je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais avant de parler des tests en cours, j'aimerais bien juste revenir sur deux sujets, donc le qui et puis l'effet, la notion de cliquet, que je trouve intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, on a coutume de penser qu'on avance selon une trajectoire relativement dynamique et qui est constante, avec une courbe linéaire qui passerait sur des modèles vertueux, de plus en plus vertueux, du POS au PLU, au PLU patrimonial, au PLUI et au PLUI patrimonial, dans un système qui nous emmène de plus en plus vers finalement une meilleure prise en compte des patrimoines et des paysages. Je me permets de contester un peu cette dynamique-là et je vais prendre quelques exemples pour vous montrer que c'est pas aussi simple et que cette notion-là est très plastique, aussi bien les champs qui la déterminent que la façon dont on en parle, que vous l'avez très bien montré, la façon dont finalement les règlements sont rédigés avec une terminologie qui est quasiment changeante d'un document à l'autre, etc. La première idée, c'est la notion dynamique. En 69, à Porto, Fernando Távora lançait l'école de réhabilitation du centre ancien de Porto qui était quasiment rasé à 50%. Et il lançait une action assez déterminante, politique. Lui-même était un architecte issu des mouvements communistes. Et connectait directement, et vous allez voir que ça rentre en résonance avec ce qu'on fait maintenant, la question de la valorisation des patrimoines et la question de l'appropriation, et évidemment de la construction des savoir-faire qui avaient été dilapidés et balayés par la révolution. Par la dictature. Cette expérience qui a été une expérience radicale en termes de protection, valorisation, connaissance et surtout réappropriation et fabrique finalement d'une économie patrimoniale s'est arrêtée avec un changement politique et on est revenu en arrière quelques années après, on est redescendu finalement dans une vision beaucoup plus esthétisante et finalement beaucoup moins riche et certainement beaucoup moins sociale aussi du patrimoine. Un autre exemple assez radical, les usines Renault, classées en 1989 projet d'intérêt national par Michel Rocard, abondamment renseigné par les services de l'inventaire, abondamment très connu par l'ensemble des historiens qui planchaient sur le sujet, 70 hectares d'histoire sociale aux portes de Paris, qui sont rasés d'un revers de main par des élus qui font un choix totalement différent, qui décident qu'il n'y a pas d'histoire sociale, ou en tout cas qu'elle ne mérite pas de figurer dans le projet urbain, et des urbanistes qui s'emparent de la question sur un territoire vierge, un triangle, en conservant un seul monument, enfin ce qui n'est même pas un monument, qui est un bâtiment, le 57 métal de Claude Vasconi, qui est finalement une anecdote à l'échelle du projet. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est très fluctuant. Et puis, à contrario, je vais prendre des bons exemples cette fois-ci, la cathédrale de Bourges, donc, que vous connaissez, qui est évidemment classée et qui est également sur la liste du patrimoine mondial, et avec une équipe d'élus et d'animateurs et de spécialistes de la question du patrimoine, qui s'interroge sur le pourquoi les habitants de Bourges, du centre, mais aussi de l'agglomération, ne s'intéressent pas tellement finalement à leur patrimoine, et lance un dispositif assez ludique qui s'appelait « Faire un câlin à sa cathédrale » et qui propose à 500 personnes de venir finalement embrasser la cathédrale, faire le tour et essayer de construire un lien plus fort entre des habitants qui vivent un quotidien et un monument qui s'affranchit un peu de ce quotidien pour s'imposer avec une valeur universelle, exceptionnelle, c'est-à-dire comme ça que c'est qualifié. Donc on voit bien que le lien n'est pas systématique et que ce travail de compréhension, de mise en relation, de mise en tension doit être repris continuellement et que cet effet cliquet n'est absolument pas garanti. J'ai un dernier exemple en tête. Le comité du patrimoine mondial, donc qui est ce comité d'experts qui consacre finalement la valeur universelle exceptionnelle d'un certain nombre de biens choisis et triés sur le volet, a en 2012 consacré la valeur universelle exceptionnelle du bassin minier. Et c'était une révolution parce qu'évidemment, ce patrimoine social qu'on s'appliquait à détruire depuis les années 80, en gros, sur le champ de l'histoire des techniques, a été là pour le coup à bénéficier d'abord évidemment d'une visibilité médiatique sans précédent et forcément est devenu un objet d'étude. Alors il l'avait été puisque ça fait l'objet d'un plan de gestion, mais c'est devenu, ça lui a systématiquement et automatiquement conféré une valeur à la fois pour ceux qui l'étudiaient, mais aussi pour les habitants qui se sont sentis finalement possesseurs ou détenteurs d'une part de ce patrimoine social. Donc je trouve que c'est une intéressante entrée par cette espèce de plasticité d'un système de valeurs qui pose quand même la question du qui définit ce qui fait patrimoine ou pas. Vous en avez parlé, c'est à la fois des élus, des citoyens, des techniciens. Voilà pour la petite histoire, et là je vais revenir à ce qui nous réunit. Il nous a semblé que finalement les PLU avaient un système un peu automatique et un peu cadré par la loi, en l'occurrence Allure, et qu'on trouvait dommage qu'il n'y ait pas finalement une dimension plus prospective, plus lié à de la recherche et ça a permis finalement de lancer le projet PBC, Patrimoine Bien Commun, pour interroger la façon dont finalement des collectifs d'habitants peuvent s'emparer et évoquer et parler de leur finalement cadre de vie sans forcément aborder la question patrimoniale, mais qui fondent une légitimité pour tel ou tel objet. Donc moi je voulais revenir dessus, peut-être laisser la parole à Mathieu ou à Roméo.
Et puis je céderai la parole à mes collègues qui ont approfondi ce sujet. C'est peut-être juste pour introduire deux idées hein, par rapport à vos deux interpellations. La première, c'est que la notion de cliquet, c'est du point de vue de l'écriture réglementaire. Hein, je crois que ça a été mentionné. Et effectivement, on sait très bien que les questions sociales et politiques, ça ne marche pas comme ça. Et que c'est infiniment plus complexe, et que je trouve que le fait d'avoir introduit dans le film, par exemple, l'exemple de Saint-Omer et d'un poste fin qui avait déjà une ambition que n'ont pas un certain nombre des plus actuels, montre bien qu'on a cette conscience du fait que tout ça ne marche pas de manière linéaire. Hein, ça renvoyait plutôt à la question de la réglementation et de sa manière d'être écrite. Et le deuxième aspect, c'est effectivement la question de ce jeu des acteurs, puisqu'on peut prendre cette expression-là. Vous allez pouvoir la développer dans quelques instants, mais elle me semblait déjà très présente dans vos préoccupations et dans ce qui a été transmis. Alors peut-être que ça mérite encore hein, d'être précisé, mais je n'ai pas tellement entendu, moi, le « on ». J'ai entendu les techniciens, j'ai entendu les élus, j'ai entendu les habitants. Donc c'était vraiment pour nous un enjeu, effectivement, d'essayer de voir dans cette boîte noire qui fait quoi, sachant qu'effectivement, selon les positions de pouvoir, selon les compétences, selon les cultures professionnelles, et ça, Julie le sait très bien, on va avoir des acceptions du patrimoine qui sont extrêmement variées et qui vont effectivement peser. Et tout ceci nous dit tout simplement des rapports de force hein, entre ces différents acteurs. Mais voilà, je vais vous céder le micro pour vous aller plus loin que moi.
Oui, non, parce que Bruno a ouvert une porte sur le projet patrimoine bien commun qu'on mène par ailleurs avec Roméo, et je pense que tu souhaitais juste qu'on en dise deux mots sur la démarche qu'on a menée, en fait. On mène une démarche qu'on a appelée Apéro Drone, qui semble rigolote, et qui est rigolote d'ailleurs, où en fait on vole avec un drone au-dessus de villages, et à partir de là, on montre ces images captées à l'écran à des habitants, et l'objectif c'est de faire parler les habitants sur leur cadre de vie. Alors on dit pas patrimoine, en tout cas on évite de dire patrimoine, et on voit si les habitants d'eux-mêmes disent patrimoine. Alors il y a des villages où ça marche, où ils disent patrimoine assez rapidement, il y a des villages où ils ne le disent pas, mais ils parlent d'autre chose, alors ils parlent de nature, ils parlent de cadre de vie, d'environnement, et ça a le mérite de délier les langues, le fait de montrer des images assez inédites du point de vue du drone, et de commencer à percevoir ce qui fait bien commun, ce qui fait patrimoine, on ne sait pas encore trop comment on va analyser les choses, du point de vue des habitants. Et effectivement, c'est peut-être quelque chose à raccrocher derrière à des démarches de PLU ou de ce qu'on peut appeler un inventaire participatif, un recensement participatif. Alors, du patrimoine ou du bien commun, Roméo, je ne sais pas, tu nous en diras plus de choses. Alors, c'est deux projets de recherche différents, mais le deuxième projet est né du premier, donc évidemment, il y a des liens assez... assez évident, et on voit bien que ces démarches-là impliquent davantage l'habitant dans la définition de ce qui fait patrimoine pour lui, dans la définition de son cadre de vie, dans son appropriation aussi de ces notions-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui est assez intéressant.
Je me sens un peu embarrassé parce qu'on est là dans le cadre d'un projet d'en parler d'un autre. En effet, la question, c'est que, comme je vous disais avant, je suis assez touriste et je n'arrivais pas à capter. Et donc, en effet, je vais demander, mais ça, c'était un démarrage au début du projet, donc il y a 3 ans, de commencer à faire un suivi presque anthropologique de la constitution de la mise en forme d'une PLU. Parce qu'en effet, on se posait la question, c'est qui derrière on ? Et on n'arrivait pas à le contacter, on n'arrivait pas à le voir. Et dans ce cas-là, le on, c'était nous. C'était nous trois, plus 2-3 autres, qui d'ailleurs sont dans la salle. Et donc, en effet, ce qui nous réunit et qui nous a amené jusqu'ici, jusqu'à ces jours-là, c'est justement l'incapacité et donc la curiosité de voir qui agit effectivement, qui est capable de produire ce qui, moi, je me suis permis d'appeler un sous-ensemble coordonné et cohérent, un groupe qui produit une réduction du réel, qui a une cohérence interne. À partir de là, effectivement, nous nous sommes demandé de comment on peut retrouver des acteurs. Et sur ça, en effet, nous avons travaillé et on a lancé ce travail sur les acteurs qu'on a essayé de vous montrer, c'est-à-dire de qui, effectivement, à partir des exemples qui ont été étudiés, comment on peut construire effectivement où on trouve nos acteurs. Et c'est finalement ce que Julie a fait.
En fait, je pense que mon angle d'attaque, moi, c'est forcément la culture des acteurs, puisque c'était le sujet de ma thèse. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment cette notion de background, en fait, de ce que ont les personnes en charge. Nous, que ce soit pour le recensement, que ce soit pour la sélection, que ce soit pour l'articulation réglementaire, finalement, l'idée, c'est de voir s'ils ont dans leur parcours, à un moment donné, du patrimoine, comment ils se sont appropriés eux-mêmes et comment ils le retranscrivent. Et si on a un élu qui est, enfin moi sur les cas que j'ai pu étudier hors PLU, mais sur des protections type SPR par exemple, si on a un élu qui est prof d'histoire, il va être très favorable à l'idée de protéger son patrimoine parce que c'est une passion pour lui. De la même manière que si on a un architecte qui est passé par Chaillot et qui fait des AVAP et qui fait des PLU, bah, son PLU sera forcément plus coloré, on va dire, patrimoine. Et pareil pour la mobilisation habitante. Là-dessus, sur la question des habitants, par contre, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est effectivement cette prise de conscience, et là, c'est plutôt le socle scolaire, donc bien plus loin qu'on peut aller mobiliser, qui est en fait de dire, dans notre conception à nous, en tant que même habitants de notre propre ville, on est plus avec des échelles, je dirais, de bâtiments, de choses comme ça, de propriétés, qu'avec des échelles de prise de conscience d'un ensemble. Et dès qu'on demande à des habitants, finalement, de réfléchir à l'ensemble urbain dans lequel ils s'inscrivent, il y a à la fois le fait qu'ils soient propriétaires d'un bien dans cet ensemble et donc qu'ils résonnent à leur échelle, et à la fois le fait qu'on ne leur ait jamais enseigné de regarder cet ensemble-là en totalité. Et finalement, c'est cette question-là aussi d'articulation entre prendre de la hauteur quand on est habitant, sur un patrimoine, et les mobilisations habitantes, finalement, moi, ce que j'ai pu constater, c'est plus des typologies de patrimoine, donc on est plutôt sur des séries, on est plutôt sur des éléments de patrimoine qui vont être avoir un peu, enfin, je prends l'exemple de Montpellier, par exemple, on est en plein dedans, on a le cas de l'EAI, qui est l'école d'application d'infanterie, qui est, alors Montpellier, pour le terrain que j'ai analysé moi, n'était pas une commune avec une véritable identité culturelle forte qui se traduit dans les documents patrimoniaux. Et pourtant, justement sur ce cas-là particulier, qui n'est pas dans une protection SPR, on a une véritable mobilisation citoyenne autour de ce cas-là, qui est de dire justement, on a une mémoire militaire de cette école-là, les Montpelliérains en sont sortis, il ne faut pas toucher à ce patrimoine, qui n'est recensé à ce jour pas comme un objet en particulier. Donc il y a une mobilisation, mais liée à l'histoire qui est en plus un peu plus immédiate. C'est ce qu'on disait aussi sur les typologies de patrimoine. Finalement, le patrimoine recensé dans les PLU, il est plus proche des habitants, à la fois temporellement et spatialement aussi. Donc il y a peut-être ces questions-là